Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 12 mai, nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'actualité grâce à la richesse des reportages de la rédaction. Notre route passera par les États-Unis, l'Iran, l'Afghanistan ou bien encore le Kenya. Rendez-vous d'ailleurs avec l'actualité africaine dans la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'Israël, ou plutôt des relations entre la France et Israël, avec notre invité Vincent Nouzi, qui vient d'écrire « Histoire secrète » au pluriel, « France-Israël 1948-2018 », un livre publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur l'application RFI Pure Radio et sur le site www.rfi.fr. Avant d'aller à votre rencontre, Vincent Nouzil, partons pour l'Arménie qui, au terme d'une révolution pacifique, a un nouveau Premier ministre, chef jusqu'ici de l'opposition, Nikol Pachinian, à Yerevan mercredi. Reportage de Daniel Valo.
Il est accueilli en héros sur cette place de la République, devenue le point névralgique de la révolution de velours. Nikol Pachinian vient tout juste d'être désigné Premier ministre. Il peut enfin s'adresser à ses partisans. Dans la foule, cette jeune femme se dit heureuse mais prudente. À ses yeux, la partie est encore loin d'être gagnée.
Yes, of course, it's the end of the long struggle.
Bien sûr, c'est la fin d'un long combat, mais il y a encore d'autres pas à franchir. La prochaine étape, c'est la réforme de la loi électorale. Et l'étape finale, ce sera l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale. Si nous parvenons à franchir toutes ces étapes, alors on pourra dire que la révolution l'a emportée.
It will be the victory of revolution.
Réforme de la loi électorale, lutte contre la corruption, développement économique, voilà le programme de Nikol Pachinian. Mais le nouveau Premier ministre aura du mal à imposer ses réformes à un Parlement qui lui reste fondamentalement hostile. Un Parlement qui a accepté de le nommer pour une seule et unique raison, éviter des élections anticipées qui lui seraient fatales.
Une semaine d'actualité.
Bonjour Vincent Nouzil.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, historien, écrivain, documentariste, beaucoup de casquettes donc, auteur de plusieurs livres de référence, notamment sur les États-Unis, sur des livres qui sont à la fois dans l'actualité et dans l'histoire aussi. Et aujourd'hui, vous intéressez aux relations franco-israéliennes depuis la création de l'État hébreu. Je l'ai dit tout de suite, j'ai trouvé votre livre absolument passionnant. Il s'intitule « Histoire secrète au pluriel, France-Israël 1948-2018 ». Livre publié aux éditions Les liens qui libèrent, où l'on s'aperçoit que ces relations depuis 1948 sont très compliquées.
Elles ont démarré par une formidable lune de miel, c'est ça qui est tout à fait stupéfiant. On a peine d'ailleurs aujourd'hui à imaginer le contexte du soutien politique dont bénéficiait l'État hébreu, tout jeune, constitué en 1948, dans la classe politique française de l'époque. Il y avait certainement une réminiscence de culpabilité à l'égard de la situation des Juifs de France, du régime de Vichy. Il y avait cette envie que le peuple juif trouve après l'Holocauste un foyer. Et puis, il y avait certainement aussi, au sein de la 4e République, puisque c'était la 4e République, notamment au sein des élites, plutôt des gouvernements socialistes de l'époque, comme celui de Guy Mollet, mais aussi François Mitterrand, Pierre Mendès-France et d'autres, une solidarité socialiste, puisque la plupart des fondateurs de l'État hébreu, à commencer par David Ben-Gurion, mais aussi son jeune poulain qui était Shimon Peres, et puis aussi les grands généraux comme Moshe Dayan, Golda Meir, toutes personnes qui deviendront des personnages éminents de l'État d'Israël, étaient des travaillistes, étaient des socialistes. Et donc, il y avait entre eux une forme de solidarité. Et puis, il y a un moment où ça se cristallise, cette espèce de bonne ambiance, ce sionisme politique, se cristallise avec, dans le fond, une alliance qui va devenir militaire. D'abord, militaire puisque d'une certaine façon, la France et Israël ont un ennemi commun à l'époque qui s'appelle le général Nasser, l'Égyptien, qui, à partir de 1954, commence à menacer de manière beaucoup plus ouverte l'État d'Israël, qui est tout jeune, et qui va alimenter en plus la rébellion en Algérie, donc du FLN, donc la guerre d'Algérie. Et donc pour Guy Mollet, qui est à l'époque président du Conseil, donc Premier ministre, il y a là une alliance qui, si les Israéliens nous aident à affaiblir Nasser, c'est une manière de favoriser peut-être une pacification en Algérie, puisque la guerre d'Algérie est en train de monter en puissance.
Alors Vincent, on va évoquer cette évolution des relations franco-israéliennes. Et il y a dès le départ quand même aussi de la part d'Israël une demande de collaboration et d'amitié.
Oui. Alors il y a cette demande tout simplement parce qu'Israël n'a pas d'amis. Israël est un jeune État qui, dans ce contexte de guerre froide, évidemment, Ben-Gurion est anti-soviétique, anti-communiste, même si lui, il a des racines en Russie. Mais il est farouchement anti-communiste, donc il peut pas être dans le camp soviétique. Il n'est pas non plus dans le camp américain, parce qu'avec Eisenhower à l'époque, le général, puis même avec Kennedy, les relations sont plutôt très tendues, très froides. Il n'y a pas cette alliance stratégique qu'on verra émerger par la suite. Et donc, le jeune État hébreu se tourne vers le seul État européen avec lequel il peut nouer cette relation spéciale. Cette relation spéciale, c'est avec la France. Et donc, il va y avoir une alliance diplomatique, une alliance militaire. C'est la France qui va armer l'État hébreu, qui va vraiment l'équiper militairement. Ce seront les mirages d'assaut, ce seront les uniformes, les tanks. Tout l'équipement d'Israël sera français à l'époque pour faire la guerre de 56, lors de la crise de Suez, et aussi pour faire la guerre des six jours, où c'est les avions de chasse français, en quelque sorte, sous drapeau israélien, qui vont décimer toute la flotte égyptienne.
Alors, il y a une certaine continuité, même si on s'en aperçoit vraiment dans le livre. Il y a des présidents qui sont plus proches d'Israël que d'autres, mais finalement, ils aboutissent tous à faire une certaine politique qu'on a appelée la politique arabe aussi.
Ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où, dans le fond, De Gaulle a résolu la question algérienne, à partir des accords d'Évian de mars 62, et aussi dans la mesure où il a voulu lui-même avoir sa propre bombe atomique, et donc devenir une puissance reconnue et importante, il rompt un petit peu cette relation spéciale avec Israël. Et donc, progressivement, dans les années 60, on va voir émerger cette distance, cette politique arabe du général de Gaulle. On renoue des relations diplomatiques avec le monde arabe, pour des raisons aussi économiques, pétrolières, il ne faut pas se cacher. Et puis, évidemment, au moment de 67, cette fameuse guerre des six jours, va y avoir la rupture, le divorce absolu, qui n'était pas écrit d'avance.
Avec cette phrase, on en parlera tout à l'heure, le peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur.
Bien sûr, au-delà d'un désaccord stratégique et tactique, militaire, il y avait une critique plus fondamentale de l'État hébreu de la part du général de Gaulle. Et depuis ce divorce de 67, il y a eu un grand froid d'abord, et puis après des tentatives de normalisation plus ou moins réussies. Et cette politique arabe de la France, notamment avec cette insistance sur la nécessité d'un État palestinien, qui émerge à partir de la fin des années 70 en France, au Quai d'Orsay, chez Giscard, puis Mitterrand le répète, puis Chirac le répète, puis Sarkozy le répète, puis Hollande le répète, il y a une constance qui est la nécessité que les Palestiniens aient aussi un État. Comme si la France, après avoir aidé le jeune État d'Israël à naître, voulait aider un jeune État palestinien à naître également.
Alors Vincent, revenons maintenant sur le premier fait majeur de la semaine, sur le plan chronologique, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, avec un retour des sanctions contre Téhéran à Washington mercredi. Anne Corpé.
Toutes les sanctions seront rétablies, a annoncé le président américain en ajoutant « Tout pays qui aidera l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait être aussi fortement sanctionné par les États-Unis ». C'est donc l'option la plus sévère qu'a choisi Donald Trump pour se débarrasser d'un accord qu'il a toujours qualifié de désastreux, ridicule, déplorable. Mais le président américain, qui aime à se présenter comme un négociateur hors pair, estime qu'il est néanmoins possible de relancer les discussions.
Alors que nous sortons de cet accord, nous allons travailler avec nos alliés pour trouver une solution réelle, globale et durable à la menace nucléaire iranienne.
Outre le nucléaire, Donald Trump voudrait mettre sur la table l'interdiction du programme de missiles balistiques de l'Iran et la lutte contre son influence régionale. Mais il menace en même temps Téhéran.
Si le régime continue sa quête du nucléaire, il aura les plus gros problèmes jamais rencontrés.
Barack Obama a qualifié de grave erreur la décision de Donald Trump. Il est assez rare que l'ancien président américain commente les actions de l'actuel hôte de la Maison Blanche.
Alors voici ce qu'a dit de cette décision à Téhéran le président iranien Hassan Rouhani quelques heures après cette décision américaine.
J'ai ordonné au ministère des Affaires étrangères de mener pendant les quelques semaines à venir avec les pays européens et les deux autres grands pays, la Chine et la Russie, des négociations. Si à la fin de cette courte période, nous arrivons à cette conclusion qu'avec la coopération de ces cinq pays, les intérêts du peuple iranien sont assurés malgré les États-Unis et le régime sioniste, l'accord nucléaire restera en vigueur. Et j'ai ordonné à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de prendre les mesures nécessaires pour qu'en cas de nécessité, nous reprenions l'enrichissement d'uranium industriel sans limite.
Alors c'est dans ce contexte, Vincent Douzil, que j'ai lu le chapitre que vous consacrez au début des relations dont vous avez parlé entre la France et Israël, et cette volonté d'Israël non seulement d'être armé, mais d'acquérir la bombe atomique avec des mensonges à n'en plus finir.
Oui, alors c'est évidemment le paradoxe ou le clin d'œil presque tragique un petit peu de l'histoire, ou du cynisme des puissances ou des États. Évidemment, le contexte est différent, mais à l'époque... Alors qu'aujourd'hui, évidemment, l'État d'Israël et Netanyahou a accusé l'Iran d'avoir menti sur la nature de son programme nucléaire. Évidemment, il est, j'irais presque mal placé, entre guillemets, pour parler de mensonge, puisque à l'époque, dans les années 50, Israël a décidé de se doter de l'arme atomique. Or, il va se tourner vers la France avec des accords secrets dont je raconte le détail avec
c'est passionnant,
des accords secrets qui sont des accords pour la mise au point des armes atomiques militaires. Donc on est bien sur une coopération. C'est Guy Mollet qui donne son feu vert après la crise de Suez à ses premiers accords. Il dit je leur dois la bombe en parlant des Israéliens. Et donc va se nouer cette coopération pour créer et ouvrir un centre nucléaire secret, clandestin, dans le désert du Negev, à Dimona, plus une usine d'extraction de plutonium, qui, elle, a des visées militaires évidentes. Mais il y a quand même encore un secret total, parce que Ben Gurion, à l'époque, ne veut absolument pas que les États-Unis ni l'URSS apprennent qu'il a ce programme, parce que ça pourrait avoir des répercussions internationales importantes. On sait que la prolifération est un thème majeur, on le voit aujourd'hui. Et... De Gaulle, il va en parler à De Gaulle en disant, De Gaulle va lui demander, mais pourquoi vous voulez vraiment la bombe? De Gaulle répond, ben voilà, je veux la bombe parce que je suis un petit pays et que je suis menacé en permanence et que si je suis attaqué en une heure, je peux avoir disparu. Donc, je veux cette arme suprême. Et donc, il va même s'engager auprès de De Gaulle, en mentant d'ailleurs, en lui disant, je ne veux plus penser à la bombe, je ne ferai pas la bombe. Et en fait, il va continuer de le faire. Il va, les Américains, fin 60, découvrent avec des photos satellites que ce centre de Dimona dans le désert n'est pas tout à fait innocent. Et donc, il y a la presse américaine qui s'y met en disant l'Israël a trompé les États-Unis. Et le président Kennedy pose la question à Ben Gurion. Alors, vous nous trompez. La situation est extrêmement tendue à cette époque-là. Au point que Ben Gurion est obligé de reconnaître devant la Knesset, fin 1960, que oui, il a bien un projet de centre nucléaire, mais qu'il s'agit de projets purement pacifiques. En l'occurrence, ce n'est pas le cas.
Ce qui rend furieux De Gaulle.
Ce qui rend aussi furieux De Gaulle. Alors évidemment, ils disent, et à juste titre, qu'ils ont cette arme nucléaire. Ils ne l'ont d'ailleurs jamais reconnue officiellement. Qu'ils ont cette arme atomique à but purement dissuasif et défensif. Alors qu'évidemment, d'autres États... ça a été le cas de l'Irak à un certain moment, et puis maintenant c'est le cas de l'Iran, avaient des éventuelles visées offensives et ils avaient des déclarations pour détruire l'État d'Israël, ce qui justifie une partie de la posture de Netanyahou d'aujourd'hui.
Et quel est votre regard, Vincent Douzil, sur cette décision américaine, alors que selon l'AIEA, c'est-à-dire l'agence des États-Unis chargée du contrôle des armes atomiques, l'Iran respecte l'accord sur ce programme.
Même si cet accord de 2015 est imparfait, il faut se souvenir qu'il a été poussé par les États-Unis pendant quelques années, que c'est la France, sous François Hollande, avec Laurent Fabius, qui a tenté de raffermir, dans le fond, les conditions de cet accord en 2015, que Israël, à l'époque, poussait la France à ce raffermissement. Donc, il y avait même une forme d'alignement franco-israélien sur ce sujet. Ça a été le cas sous Sarkozy, et ça a été le cas sous Hollande. Aujourd'hui, il y a une rupture de cet axe. Il y a une rupture. La France, aujourd'hui, n'est plus dans cette position qui consisterait à dire on s'aligne automatiquement sur la position israélienne, sur le danger iranien ou sur la position américaine. Donc, Donc il y a une rupture et c'est là maintenant c'est l'enjeu pour l'Europe, pour Macron, d'essayer de fédérer autour du président iranien et surtout des Européens une éventuelle position commune qui maintiendrait en vigueur cet accord qui aujourd'hui est quand même mal barré, il faut le dire.
Alors Vincent Douzy, coïncidence ou pas, quelques heures après l'annonce américaine, il y a eu une escalade militaire inédite entre Israël et l'Iran sur le plateau du Golan, annexé par l'État hébreu et en Syrie également. De Beyrouth, Paul Khalifeh a fait un point complet jeudi.
Des sources militaires de l'armée syrienne et du Hezbollah libanais ont indiqué que des salves de roquettes ont été tirées contre une dizaine de bases militaires israéliennes dans le Golan occupé. Il s'agit essentiellement de stations radar, de centres de commandement et d'installations de surveillance électronique. Les sources syriennes et du Hezbollah ont aussi confirmé le tir par Israël de plusieurs dizaines de missiles contre des camps militaires, des bases de radar et des batteries anti-aériennes dans plusieurs régions de Syrie. Les médias proches de Damas et du parti pro-iranien qualifient cette opération de plus vaste attaque israélienne contre la Syrie depuis 1974. Selon ces sources, la défense antiaérienne syrienne a abattu un grand nombre de missiles avant qu'ils n'atteignent leur cible au-dessus de Damas, Qunaitra, au sud de la capitale, de la province méridionale de Souaïda et Homs dans le centre du pays. Les sources militaires affirment qu'une base de radar de l'armée syrienne a été touchée à Qunaitra. Des sources russes affirment pour leur part que 28 avions israéliens ont tiré jeudi à l'aube 60 missiles contre plusieurs cibles dans différentes régions de Syrie. La moitié de ces projectiles a été abattue par la DCA syrienne, selon les mêmes sources.
Alors Vincent Douzy, écoutez ce qu'a dit après ces opérations israéliennes le premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou.
Iran chatzta kav adom.
L'Iran a franchi une ligne rouge. Nous avons réagi en conséquence. L'armée a mené une attaque de grande envergure contre des objectifs iraniens en Syrie. L'action iranienne a échoué. Aucune des roquettes n'a atterri en territoire israélien. Nous sommes engagés dans une bataille continue et notre but est clair. Nous ne laisserons pas l'Iran s'établir militairement en Syrie. Hier, j'ai envoyé un message clair à Assad. Notre action est dirigée contre les cibles iraniennes en Syrie. Mais si l'armée syrienne agit contre nous, nous agirons contre elle. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Des batteries de l'armée syrienne ont tiré des missiles solaires contre nous et donc nous les avons frappés. La communauté internationale doit empêcher les forces spéciales des gardiens de la révolution de s'établir militairement en Syrie. Nous devons nous unir pour couper les bras du mal qui s'étend ici et partout. Je le répète, nous frapperons au centuple tous ceux qui nous attaqueront. Et nous agirons contre ceux qui se préparent à nous attaquer avant qu'ils passent à l'acte. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous continuerons à faire.
Ce matin, il nous faut nous intéresser au plateau du Golan, singulièrement, plateau du Golan bombardé donc par des roquettes depuis la Syrie, plateau annexé par Israël à Jérusalem, Guilhem Deltaï.
Pour Israël, le plateau du Golan représente un intérêt stratégique. De ses hauteurs, l'armée syrienne a bombardé des positions israéliennes situées en contrebas aux abords du lac de Tibériade. Mais la souveraineté sur le Golan assure aussi un contrôle de nombreuses sources coulant vers le Jourdain, l'une des principales alimentations en eau douce d'Israël. Durant la guerre des six jours en 1967, l'armée israélienne a conquis ce territoire. Six ans plus tard, lors de la guerre de Kippour, les forces syriennes ont tenté de s'y réimplanter sans succès. Depuis, une zone démilitarisée de 70 km de long a été établie entre les deux pays. Officiellement, la Syrie et Israël sont toujours en guerre. Les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix. Les négociations achoppant toujours sur la question du Golan, dont Damas réclame la restitution, mais qui a été annexée par Israël en 1981. Depuis le début du conflit syrien en 2011, que ce soit de manière intentionnelle ou la conséquence de combats menés à proximité, des obus de mortiers sont régulièrement tombés dans cette zone. À chaque fois, l'armée israélienne a répliqué par des bombardements de positions syriennes, mais jamais encore elle n'avait mené d'opération d'aussi grande envergure que dans la nuit de mercredi à jeudi.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Vincent Nouzy, auteur de Histoire secrète, France-Israël, 1948-2018. Et voici Vincent, Israël, à nouveau engagé dans des combats.
En fait, depuis 70 ans, Israël est toujours en guerre. En réalité, il y a eu la guerre de 48, l'indépendance, il y a eu la guerre de 67, enfin 56, pardon, Suez, la crise de Suez, il y a eu la guerre des six jours, il y a eu la guerre de Kippour, et il y a eu toutes les autres guerres, que ce soit au Liban, 82-2006, dans la bande de Gaza avec des offensives. Et sur la Syrie, pour l'instant, il y avait, depuis 67, il n'y avait pas eu, enfin, et 73, bien sûr, il n'y avait pas eu d'incident. Donc il y avait une forme de statu quo qui semblait, dans le fond, satisfaire à la fois le président Assad et les Israéliens. Alors évidemment, tout le conflit en Syrie, évidemment, a déstabilisé cette zone. Et à partir du moment où les Iraniens sont venus prêter main forte au régime de Bachar el-Assad et qu'ils se sont installés, y compris dans les zones assez récemment d'ailleurs, du sud de la Syrie, qui jouxte justement le plateau du Golan, évidemment, ça devient une espèce de ligne rouge pour Israël. De la même façon qu'au sud Liban et au nord de cette frontière avec Israël, il y a toujours eu cette ligne rouge sur laquelle tout tir venant du Hezbollah libanais sur Israël donne lieu à une réplique souvent d'ailleurs importante. Ouais. Mmh. De la même façon, les roquettes tirées depuis la bande de Gaza à l'instigation souvent du Hamas ou du djihad islamique font l'objet de répliques qui sont souvent assez dévastatrices. De la même façon, aujourd'hui, on assiste à cette escalade sur le plateau du Golan avec les forces irano-syriennes, peut-être iraniennes tout simplement. Et là, effectivement, on est dans une zone plus dangereuse puisque derrière, évidemment, derrière la Syrie, derrière ce terrain guerrier et la zone évidemment d'influence que l'Iran souhaite acquérir avec une proximité si grande avec Israël que Israël se sent évidemment à nouveau menacé.
Alors ce qui frappe dans cette époque 1948-2018 et notamment au début dans les premières années, première décennie, c'est qu'il y a une volonté de la France de modérer les ardeurs, si j'ose dire, d'Israël, notamment le général de Gaulle avant 67. Avant cette
guerre, alors 67. Dès ces rencontres avec Ben Gourion, je les dévoile d'ailleurs en intégralité, elles sont passionnantes ces entretiens parce qu'on voit qu'il y a une forme de quiproquo. De Gaulle interprète les propos de Ben Gourion comme étant une volonté de doubler sa population d'Israël, qui à l'époque était plutôt de 2 ou 3 millions d'habitants. Il dit qu'il veut doubler, donc il veut passer à 4, 5, 6 millions. Pour ça, il aura besoin de territoire. Et donc, De Gaulle pense qu'il y a une volonté expansionniste, de conquérante militaire d'Israël. Et donc, il va toujours avoir ça en tête. Peut-être que c'est une fausse interprétation des propos de Ben Gourion, en l'occurrence. Mais il y a toujours ce quiproquo. Et lorsque advient cette crise de mai-juin 67, à ce moment-là, De Gaulle considère que Israël ne doit pas attaquer le premier. Il prévient le ministre israélien des Affaires étrangères, venu lui rendre visite le 24 mai 67. Bien, si vous attaquez les premiers, si vous êtes l'agresseur, en quelque sorte, je vous dénoncerai. Et c'est ce qu'il fait, puisque Israël se sentant cerné par des troupes égyptiennes, syriennes, jordaniennes qui risquent de passer à l'assaut, fait une guerre préventive.
Et c'est là que dans sa célèbre conférence de presse du 27 novembre 1967, il va parler du peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, et va ajouter une phrase qui résonne encore aujourd'hui,
qui est moins connue d'ailleurs.
Il organise sur son territoire qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et s'y manifeste contre lui la résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme.
Oui, tout est dit, c'est un territoire occupé, et reste un territoire occupé. Évidemment, c'est très mal perçu, surtout les propos sur le peuple sûr de lui-même et dominateur. Mmh. C'est même perçu comme un propos antisémite par les Israéliens, de la part du général de Gaulle. Mais il y a cette critique, tout simplement, sur l'occupation, qu'il va bien falloir résoudre. C'est-à-dire, une fois qu'on a pris ces terres, c'était la Cisjordanie, c'était la bande de Gaza, c'était tout le Sinaï à l'époque, évidemment, le général de Gaulle considère qu'il faudra bien un jour avoir un processus de paix. Évidemment, Israël est en position de force à l'époque pour négocier une restitution éventuelle de ces territoires contre quelque chose, contre une sécurité renforcée. Et dans le fond, depuis 67, ça n'est jamais advenu. Il y a eu ces accords partiels sur le Sinaï avec l'Égypte, Camp David, et les accords sur le Sinaï qui est rendu aux Égyptiens en 82. Il y a eu ces accords évidemment avec la Jordanie en 94, un accord de paix partiel. Et il y a eu cette restitution partielle, autonomie partielle de certains morceaux, si je puis dire, des territoires palestiniens occupés, la bande de Gaza et une partie évidemment de la Cisjordanie. Donc ça reste un dossier qui n'est pas tranché et sur lequel les gouvernements successifs israéliens, principalement de la droite israélienne depuis presque 1977, il faut bien le reconnaître, depuis 40 ans, il y a eu 4-5 ans d'années travaillistes et 35 ans d'années du Likoud. Donc on est quand même face à un gouvernement qui est quand même très dur sur ses positions et qui ne veut rien céder sur sa sécurité.
Sept jours dans le monde.
Et direction Kaboul maintenant, Vincent Nouzi, avant de reparler de l'escalade militaire entre Israël et l'Iran. Kaboul qui a connu une vague d'attentats mercredi, correspondance de Sonia Ghezali.
Il est 19h, heure locale, quand retentit la dernière explosion dans le centre de Kaboul. Quelques minutes plus tard, le ministère de l'Intérieur annonce que le dernier kamikaze du commando qui a lancé une attaque contre un commissariat de police dans le centre de Kaboul est mort. 7 heures plus tôt, 2 hommes armés avaient tenté de pénétrer dans les locaux avant d'être abattus par la police. Un kamikaze s'était ensuite fait exploser près d'une agence de voyage délivrant des visas indiens aux Afghans, alors que 3 autres se retranchaient dans le voisinage. Plusieurs explosions ont retenti tout au long de la journée au cœur de Kaboul. Dans l'ouest de la capitale, un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée d'un autre commissariat de police, avant que des échanges de tirs ne suivent. Insurgés et forces de police appuyées par les forces spéciales afghanes s'affrontent ainsi durant plusieurs heures. L'organisation État islamique a fini par revendiquer cette attaque, les talibans celle perpétrée dans le centre de la capitale. La coordination entre les différents groupes d'insurgés est particulièrement inquiétante, soulignent certains analystes afghans. En province, plusieurs districts sont tombés ces dernières 48 heures sous le contrôle des talibans.
Revenons donc au Proche-Orient maintenant, Vincent Nouzi, après les affrontements entre l'Iran et Israël sur le théâtre syrien et la décision aussi de Donald Trump. Écoutez la réaction du président français Emmanuel Macron en visite en Allemagne à Aix-la-Chapelle jeudi.
L'Europe doit pouvoir travailler sur 2 axes complémentaires. Le premier axe, c'est celui de la stabilité et d'éviter toute escalade. Le 2e axe sur lequel nous devons travailler, je prends Israël, l'Arabie Saoudite, les États-Unis au mot. Ils nous disent « l'accord de 2015 sur le nucléaire n'est pas suffisant ». Chiche, travaillons sur quelque chose de plus large. On va passer par des phases de tension, il faut être lucide. Elles sont alimentées par les uns et les autres. Certains y ont intérêt sur le plan de leur politique intérieure. Je crois que nous, il faut qu'on s'attache à continuer à parler à tout le monde, à donner des garanties, à faciliter les choses pour la stabilité et la paix au Moyen-Orient, mais qu'on ne lâche pas ce travail indispensable de la construction d'un accord plus large tel que nous l'avons proposé.
Alors nous avons des questions d'auditeurs qui arrivent. Oumar, par exemple, nous demande si quelle est la politique exacte d'Emmanuel Macron par rapport à Israël et par rapport au conflit au Proche-Orient.
Alors tout d'abord, dès qu'il a été élu, il a envoyé des signaux plutôt perçus comme très positifs par Israël. Le premier, c'était d'inviter le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la commémoration de la rafle du Veldiv, c'était le 16 juillet 2017, durant lequel il prononce un discours extrêmement amical à l'égard de celui qu'il appelle Bibi, donc Benjamin Netanyahou, et il prononce une petite phrase qui n'est pas innocente, il dit « l'antisionisme est une forme d'antisémitisme ». Donc il va exactement dans le sens de ce que souhaitent évidemment les dirigeants israéliens et la communauté juive française. Mais une fois qu'on a fait ces déclarations amicales, c'est toujours un peu la même chose d'ailleurs, les présidents français commencent toujours par des déclarations amicales.
Toujours.
Et puis ça se gâte toujours un petit peu après, tout simplement parce que, sur le fond, il y a des invariants dans la politique étrangère française. Il y a des intérêts français en Égypte, dans les Émirats, on a des liens avec les Saoudiens, on a des liens avec les Turcs, on a une volonté de se réconcilier, entre guillemets, avec l'Iran. Emmanuel Macron devait d'ailleurs s'y rendre, on attend peut-être qu'il s'y rende un jour. Peut-être pourra-t-il jouer ce rôle, du moins, l'espère-t-il. En tout cas, il y a cette volonté de jouer un rôle régional. Évidemment, on n'a pas les mêmes intérêts qu'Israël, qui sont des intérêts quasiment existentiel, mais la France, évidemment, a toujours un intérêt sur cette région. Par exemple, elle défend la souveraineté du Liban. Elle espère ou elle veut éviter toute ingérence saoudienne ou une guerre d'Israël avec le Hezbollah au Liban, etc. Donc il y a cette volonté française de jouer un rôle. Évidemment, il y a toujours une forme d'illusion là-dedans, parce que historiquement, ayant du mal à parler, par exemple, aux Israéliens pendant des années, on avait une incapacité à pouvoir jouer à quelconque contrat d'arbitre, c'était les Américains qui jouaient ce rôle aux yeux des Américains.
Oui, parce que la situation a totalement changé. Vincent Nouzi, vous l'expliquez formidablement bien dans le livre. Au début, Israël avait besoin de la France comptait pour Israël. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas.
Oui, alors c'est toujours le cas pour un certain nombre de domaines particuliers, notamment sur des accords régionaux, parce que la France est quand même perçue comme un pilier de l'Europe, et donc la position de la France dans le concert des nations européennes peut être un levier. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des conversations très fortes entre les dirigeants israéliens. Je dévoile des conversations extrêmement dures entre Yitzhak Shamir, qui était Premier ministre du Likoud, et François Mitterrand. Ils n'étaient pas du tout d'accord, mais ils venaient toujours au dialogue, ils allaient discuter. Donc peut-être que dans Emmanuel Macron, il y a toujours cette volonté, un peu inspirée de Mitterrand, de jouer un rôle de médiateur, peut-être en attendant que les choses se décantent, parce que dans le fond, la France n'a pas énormément de leviers dans la région.
Avec une dimension supplémentaire, Vincent, c'est que lui parle de l'Europe aussi. Alors est-ce que l'Europe a une position, peut avoir une position commune ?
Pour l'instant, il n'y a pas de position commune, parce que souvenez-vous sur la question des frappes en Syrie. sur les l'arsenal chimique. Là, il y a bien eu un axe américain, britannique, français qui ont frappé ensemble. Et puis là, sur cette question de l'accord iranien, les Britanniques sont plutôt raccord avec la France et avec les Allemands. Mais les Allemands ne prendront jamais beaucoup d'initiatives sur ce sujet-là, parce que vis-à-vis d'Israël, il y a une vieille culpabilité, ils ne veulent absolument pas aller contre la politique d'Israël. Donc, seule la France a une capacité éventuelle de dire des choses de manière plus substantielle sur la région et peut-être de jouer un rôle par rapport aux Saoudiens, par rapport aux Jordaniens, par rapport aux Égyptiens, peut-être par rapport aux Turcs aussi également. Donc, il y a toujours cette volonté de la France de jouer un rôle au Proche-Orient. Il y a toujours, mais assez peu de leviers quand même, puisque dans le fond, ceux qui comptent, c'est les Américains pour Israël et c'est pour les Iraniens, dans le fond, leur allié russe.
Alors, il y a des images fortes dans cette galerie de portraits de présidents français par rapport à Israël. Il y a par exemple François Mitterrand devant la Knesset en 1982. C'était la première fois qu'un président français s'y exprimait.
C'est la première fois qu'il s'y rend, première fois qu'il parle d'un État palestinien.
Et il y a ensuite, quelques années plus tard, plus de 10 ans plus tard, la grande colère de Chirac à Jérusalem.
Dans la vieille ville, on est en octobre 96. On est dans un contexte différent puisque c'est Benjamin Netanyahu qui est à son premier mandat de Premier ministre. Il y a une tension
déjà
importante.
Déjà Benjamin Netanyahu,
Il a connu 4 présidents déjà français. Et puis, on est dans une situation de tension, puisque, d'une certaine façon, Chirac a voulu renouer avec une politique arabe. Il s'est déjà mué en une forme de tuteur ou de parrain ou de mentor de Yasser Arafat, le leader des Palestiniens. Et donc, évidemment, aux yeux des Israéliens, il est conçu comme trop pro-palestinien, trop pro-Arafat. Et donc, pendant tout son mandat, de 1995, jusqu'à la mort d'Arafat, en fait, fin 2004, le penchant de Chirac pour Arafat, sa protection même, puisqu'il ira même jusqu'à l'accueillir pour les soins
en France
pour son décès, eh bien, sont extrêmement mal vécus par les Israéliens, que ce soit d'abord Netanyahou, puis ses successeurs, qui sont Ehud Barak, le travailliste, mais juste après, Ariel Sharon, avec lequel les relations avec Chirac sont électriques. Je raconte des déjeuners qui ont l'air de réconciliation et qui,
des déjeuners à la Rabelais, d'ailleurs.
À la Rabelais, deux personnages gargantuesques. Et d'ailleurs, ça finit bizarrement, puisque Sharon, après avoir déjeuné avec Chirac, quelques semaines plus tard, fera ses AVC qui le plongeront dans le coma. Et Chirac lui-même aussi aura un accident vasculaire cérébral. Il n'y a pas de lien, évidemment, de cause à effet, mais c'est l'histoire qui est ainsi faite.
Un mot quand même sur Giscard, mérite plus, sans doute, mais c'est lui qui a fait cette politique d'ouverture de la France vers l'OLP, vers les Palestiniens.
Oui, très clairement, ce n'est pas François Mitterrand qui instille cette politique pro-palestinienne que les présidents successifs français vont développer, c'est vraiment Giscard. Alors Giscard est très en froid avec les Israéliens. Très clairement, ils s'aiment pas mutuellement. Begin, qui est à l'époque le premier ministre israélien, refuse de venir en France. Il faut dire que Giscard est extrêmement pro-arabe, qu'il affiche les amitiés pétrolières en quelque sorte, qu'il critique les accords de Camp David.
Parce que jamais on a besoin du pétrole.
On est en pleine crise pétrolière, donc le contexte est différent. Et surtout, c'est Giscard qui va introduire l'OLP, qui va pousser l'OLP sur la scène internationale, d'une part par des déclarations à l'ONU qui permet d'être un interlocuteur, puis l'ouverture d'un bureau de l'OLP à Paris en 1975, puis un certain nombre d'autres accords. Il envoie même son ministre des Affaires étrangères rencontrer Arafat à Beyrouth juste après son élection. Donc tous les signaux sont rouges, si je puis dire, concernant Giscard pour les Israéliens, qui vraiment, jusqu'au bout d'ailleurs, jusqu'à la fin, ne supporteront pas ce président français qui a réussi au plan européen, a instillé cette fameuse déclaration de Venise, on est à fin de 1980, c'est la reconnaissance par l'Europe du fait que les Palestiniens ont des droits inaliénables et qu'il faudra un jour les faire jouer.
Semaine d'actualité.
RFI, merci de votre fidélité. Direction l'Afrique maintenant, Vincent Douzy, avant de reparler de la France et d'Israël. Depuis 2 mois, le Kenya subit de fortes pluies très dévastatrices. La Croix-Rouge parle de 112 morts et de plus de 260 000 déplacés. La rupture d'un barrage à environ 200 km au nord de Nairobi a fait au moins 44 morts. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial Sébastien Nemeth dans la localité de Solaï, jeudi, là où s'est déversée l'eau du barrage.
Le balai des hélicos est continuel au-dessus de l'immense coulée de boue. Sur près de 10 km, elle a tout emporté, maisons, arbres, habitants. Rachel Wanjiru a vu une partie de sa famille disparaître sous ses yeux.
Il y a eu comme un bruit d'explosion. Puis j'ai entendu mes neveux et nièces crier dans la maison voisine. On a tenté d'aller les aider, mais leur maison a été emportée par un mur d'eau. Leurs corps ont été retrouvés en contrebas.
Des engins de chantier dégagent les rochers et débris bloquant la route. Les survivants sont pris en charge, ils reçoivent nourriture et couverture. Magritte Gwangari a beaucoup de chance d'être encore vivante.
Quand j'ai vu le torrent se déverser, on s'est enfui avec ma mère, mon mari et mes 4 enfants. J'ai vu l'eau descendre de la colline et tout le village a été recouvert. Il y avait beaucoup de maisons, d'amis, de voisins. Et regardez, tout a été balayé en quelques minutes.
Le gouvernement, le comté, l'armée et des agences humanitaires ont déployé d'importants moyens pour venir en aide aux sinistrés et tenter de retrouver les disparus. Mais l'opération est difficile, comme l'explique Nicolas Kimboy, directeur régional de la Croix-Rouge.
Le défi, c'est la grande zone à couvrir. Ça s'étend sur presque 10 km. Ensuite, il y a la météo. Vous voyez, il y a quelques minutes, il pleuvait de nouveau, ce qui bloque les opérations et la coordination.
Hier, le ratissage était toujours en cours. Inquiets pour leur avenir, les sinistrés, eux, s'apprêtaient à passer la nuit dans des abris temporaires.
Au Congo, au Brazzaville, les évêques catholiques ont publié jeudi une déclaration fort remarquée, car fort critique, Esdras Ndikumana.
Les évêques catholiques peinent d'abord ce qu'ils considèrent comme les origines du mal congolais, la révision de la constitution en 2015 malgré leur mise en garde à l'époque. La crise dans le département du Poul, un accord de paix ne suffira pas selon eux à mettre fin définitivement aux crises successives qui ont secoué cette région depuis 20 ans. Une réconciliation véritable passera par la recherche de la vérité, la justice et les réparations, disent-ils. Mais est-ce un simple hasard? Cette déclaration est rendue publique le jour des plaidoiries dans le procès du général Mokoko, cet ex-candidat à la présidentielle de 2016 poursuivi notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils évoquent dans leur déclaration l'exigence d'une justice équitable et indépendante et appellent clairement la libération de tous les prisonniers politiques. Autre sujet de préoccupation des prélats congolais, la crise économique dans laquelle se débat ce pays pétrolier et que l'on attribue un peu trop vite au prix du baril sur le marché international. Les 11 évêques signataires de la déclaration fustigent dans des mots très durs la corruption qui gangrène ce pays, avant d'en appeler à un sursaut national. Enfin, ils n'ont jamais caché tout le mal qu'ils pensaient de la constitution actuelle. Ces évêques reviennent une nouvelle fois à la charge en expliquant qu'une solution véritable à tous les problèmes congolais passe nécessairement par l'organisation d'un dialogue politique qui devrait aboutir à un modèle politique et institutionnel consensuel.
À noter aussi dans l'actualité africaine, une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, à suivre dans nos journaux. Jeudi, le ministère américain de la Défense a reconnu des erreurs lors de l'embuscade meurtrière au Niger en octobre dernier, au cours de laquelle 4 soldats américains et 4 Nigériens avaient été tués. À San Francisco, Eric De Salve nous a expliqué les problèmes soulevés dans un rapport officiel.
D'abord, sur le plan tactique, problème de renseignement. La patrouille sans gilet pare-balles a été surprise par une force djihadiste supérieure et bien équipée. Fusils d'assaut, roquettes, mitrailleuses lourdes, des mortiers. C'est la cause immédiate, conclut le rapport, de la mort des 4 soldats américains et des 4 Nigériens à Tongo-Tongo au Niger le 4 octobre dernier. Sur le plan structurel, les enquêteurs du Pentagone pointent le problème du turnover des personnels qui a gêné le déploiement en équipe du collectif pendant la bataille. Pas assez d'entraînement. La moitié des soldats américains et nigériens qui se sont retrouvés au feu n'avaient jamais réalisé d'exercice de combat ensemble auparavant. Enfin, le rapport du Pentagone révèle des dysfonctionnements dans la chaîne de commandement. Le responsable de l'équipe des forces spéciales n'a pas présenté à ses supérieurs la mission dans sa réalité. Il se serait contenté de copier-coller un ordre de mission précédent. Enfin, les enquêteurs du Pentagone démentent plusieurs informations parues dans la presse américaine. Aucun des soldats américains n'a été pris en otage et exécuté. Tous sont morts très vite de leurs blessures. Le soutien aérien de la France est arrivé promptement. Des mirages ont fait fuir les djihadistes et des hélicoptères français ont pu évacuer les survivants. En conférence de presse, le chef du commandement américain pour l'Afrique assure que son armée sera désormais beaucoup plus prudente.
suite d'une semaine d'actualité en Afrique singulièrement. J'en profite pour saluer deux auditeurs, Amadou qui nous écoute à Niamey au Niger et qui salue deux de ses amis, Bouaké Inza à Bamako et Abdoul Karim à Mostaganem. Et je voudrais dire aussi un petit bonjour à Hippolyte qui nous écoute au Bénin, un Passagon, et qui lui se demande si la décision de Donald Trump n'est pas aussi un échec pour le président iranien. Vincent Douzil.
Oui, un petit peu, dans la mesure où il voulait ouvrir l'Iran, alléger les sanctions et l'accord de 2015, effectivement, était un levier pour cela important. Sauf qu'une partie des sanctions n'a pas encore été levée et que ce retournement américain, qui est quand même un volte-face qui est comme si on déchirait un accord international, donc c'est quand même relativement grave, évidemment, est de nature à encourager les durs qui, à Téhéran, ne veulent pas, on considère que de toute façon tout le dialogue ne sert à rien puisque de toute façon on est renvoyé à son statut d'État présumé terroriste de manière éternelle, si je puis dire.
Alors au fil des pages de votre enquête, encore une fois passionnante, Vincent, on voit qu'Israël s'est toujours intéressé à l'Afrique.
Oui, alors ça c'est une des surprises.
Relation très intéressée,
oui,
mais relation quand même.
Relation intéressée parce qu'à l'époque, ayant peu d'amis, il y avait la France, et Israël cherchait à avoir des alliés tiers qui n'étaient pas dans les alliés américains, pas forcément des alliés soviétiques, et donc cherchait à avoir peut-être pour avoir des voix aussi aux Nations Unies, tout simplement, pour avoir une reconnaissance plus grande sur la scène internationale. Et donc l'aide, la coopération militaire, les gardes du corps d'un certain nombre de présidents africains, l'aide économique, et puis surtout l'activité des services de renseignement, très importante du Mossad, notamment en Afrique, ont permis à Israël d'avoir des amitiés sur ce continent qui restent très précieuses, parce que sur la scène internationale, ça fait beaucoup de voix.
Et d'ailleurs, relations qui parfois ont été très critiquées dans le monde entier, je pense notamment à l'Afrique du Sud, en pleine période de l'apartheid.
Évidemment, c'était des alliances à revers, puisque les proscrits ou les parias de la communauté internationale, comme l'Afrique du Sud, étaient considérés comme des alliés possible pour Israël avec une coopération notamment sur l'arme atomique. Une partie des essais nucléaires israéliens ont été faits avec les Sud-Africains de manière totalement confidentielle à la fin des années 70.
Alors revenons, Vincent Douzil, sur le cas, j'allais dire, de Benjamin Netanyahou. Je vous cite là dans une page de votre livre. Lors d'un sommet du G20 qui se tient à Cannes le 3 novembre 2011, Nicolas Sarkozy discute en aparté avec Barack Obama. Les micros sont allumés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Les deux présidents parlent de Benjamin Netanyahou. Je ne peux plus le voir, c'est un menteur, dit Sarkozy. Tu en as marre de lui, mais moi je dois traiter avec lui tous les jours, en chérie. Obama, 2011.
Oui, c'est, en fait, Sarkozy était d'autant plus déçu de l'attitude rigide, en fait, de Netanyahou sur tous les dossiers, hein, colonisation, frontières, négociations avec les Palestiniens et d'autres sujets, qu'il avait joué la carte de l'amitié sincère. C'est-à-dire que, avant même d'être élu président, il était allé le voir, il s'appelait Bibi, il se tapait sur l'épaule. Il y avait une relation comme ça, très, très décomplexée, hein, entre deux. Et puis, quand il arrive en 2007, donc, il soutient les positions d'Israël, il le dit carrément, Sarkozy. Donc, il est dans le fond, fait partie, un peu à rebours de la position de Chirac, d'ailleurs, d'une position plus atlantiste, plus pro-américaine et plus pro-israélienne. Donc, c'était l'axe de la politique de Sarkozy après 2007. Et puis, quand Netanyahou redevient Premier ministre en 2009, là, il se revoit, c'est « bonjour Nicolas, bonjour Bibi, c'est gentil d'être passé à Paris ». Et en fait, Sarkozy lui donne une leçon de politique. Il lui dit « voilà ce qu'il faut que tu fasses pour faire la paix ». Et évidemment, ça plaît pas du tout à Netanyahou. Et donc, pendant des années, plusieurs années, Sarkozy espère que Netanyahou va bouger sur un certain nombre de lignes. Il espère aussi que Obama va faire pression sur Netanyahou. Et rien de cela ne va se passer. Ni Obama ne va bouger, ni Netanyahou restera immobile.
Et Bibi, c'est du blabla, c'est Sarkozy qui a dit ça, non ?
Oui, oui, c'était, je rapporte un témoin de plusieurs entretiens entre Netanyahou et Sarkozy. Et à la fin, alors, il le traite de menteur sur un certain nombre de sujets. Et surtout, il considère qu'il parle beaucoup, mais qui ne fait rien pour notamment favoriser un accord avec les Palestiniens.
Et ce que je trouve aussi passionnant à la lecture de votre livre, Vincent Douzil, c'est l'importance des relations personnelles des chefs d'État et des représentants de ces deux États
français. Oui, évidemment, il y a ces constantes de la politique étrangère, des intérêts géostratégiques, diplomatiques, militaires, etc. Et puis il y a cette alchimie, que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, entre, par exemple, entre Sarkozy et Netanyahou, au début, ça fonctionne très bien. puis ça tourne au vinaigre. De la même façon avec Mitterrand et Pérez, c'était une très grande amitié. Mais Mitterrand et Chamir qui était pourtant vraiment aux antipodes de lui, il y avait une forme de respect. Je confie d'ailleurs cette petite confidence de Mitterrand qui dit, disant à Chamir, mais si j'étais à votre place, peut-être je ferais comme vous. Mais voilà, maintenant je suis le président de la République française, donc je n'ai pas les mêmes intérêts, je ne suis pas en accord avec vous. Il y a aussi De Gaulle et Ben Gurion, d'une certaine façon.
Et un grand respect de la part de Ben Gurion.
Énorme, les deux se considèrent comme les deux plus grands dirigeants du XXe siècle, donc c'est énorme. Quand ils se voient, c'est... En plus, on a cette photo qui est magnifique, le géant De Gaulle et le vieux lion Ben Gurion. Les deux hommes s'entendent bien, ils s'admirent respectivement. Mais il y a une forme de dialogue impossible, parce que Ben Gurion considère que l'État d'Israël est toujours menacé, et alors que De Gaulle considère, lui, que effectivement la menace n'existe plus. Il le confie à plusieurs premiers ministres israéliens, en disant « Vous n'êtes plus menacé, votre existence n'est plus menacée ». Alors, peut-être a-t-il tort ou raison. En tout cas, il espère encore jouer de son magistère, et en réalité, cette relation va tourner au grand froid, puisque on a parlé de ce divorce en 67.
Alors, vous revenez sur un certain nombre de coups tordus de la part des Israéliens en France. Les vedettes de Cherbourg, des plans de Mirage 3 dérobés en Suisse. Il faut lire votre livre qui est vraiment passionnant. On n'a pas dit un mot de Georges Pompidou, parce qu'il n'est pas resté au pouvoir très longtemps non
plus.
Il n'est pas resté
au pouvoir très longtemps. Il était dans la continuité de ce divorce et de ce grand froid. Mais il a laissé quand même, malgré tout, des mirages, des morceaux, des pièces détachées de mirages.
Il faut rappeler ces promesses de vente d'armes à la Libye qui lui ont valu réactions très violentes lors d'un voyage aux États-Unis.
Absolument. En fait, les Israéliens, et je raconte qu'en fait, les services israéliens, le Mossad, a monté en quelque sorte une cabale contre Pompidou. Et ça a plutôt bien marché, puisque Pompidou vendait des mirages aux jeunes Kadhafi en Libye, alors qu'il y avait un embargo sur les mêmes mirages destinés à Israël.
Et donc, c'était une grosse commande en plus.
C'était une très grosse commande. Donc, du coup, il y a eu cette campagne importante aux États-Unis. Ça s'est mal terminé, puisque Pompidou a été molesté avec sa femme à Chicago. Et que Pompidou a considéré que ça comme une insulte. Et donc, il y a eu une tension très forte. Et il y a eu, en même moment, quelques semaines avant, cette affaire des vedettes de Cherbourg, dans laquelle on considérait que les services israéliens avaient, dans le fond, avaient ridiculisé la France.
Oui, il faut rappeler que la France fabriquait des vedettes pour Israël.
Et que ces vedettes qui étaient en train d'être finies dans l'arsenal de Cherbourg ont été, finalement, évacuées avec l'aide d'une société écran norvégienne montée de toutes pièces qui a permis de racheter ces vedettes et les soustraire à la barbe, si je puis dire, et au nez des autorités françaises en plein Noël 1969. Donc, à ce moment-là, fin 69, on est en pleine tension parce que Pompidou considère que les Israéliens lui font les coups tordus dans le dos. Coups tordus sur les vedettes, coups tordus sur la campagne aux États-Unis. Et donc, ça va mal terminer. Et pendant, jusqu'à sa mort en 74, il est extrêmement virulent contre Israël. Je note des petites phrases qu'il annote auprès de ses conseillers diplomatiques en disant « Non, non, Israël, il faut rien lâcher absolument ». Et puis il y a Michel Jobert, son ministre des Affaires étrangères, à la fin, qui sera considéré comme un très grand pro-arabe, et donc très très mal vu par les Israéliens.
Donc je reviens à ma question du début, des relations compliquées et passionnées.
Oui, c'est toujours, en fait c'est un couple infernal.
Oui.
France-Israël,
c'est... Même les présidents les mieux disposés au
absolument,
début finissent
toujours
par être critiques.
Par se fâcher. Alors, peut-être ça n'a pas toujours de conséquences énormes, mais peut-être qu'il y a dans le fond une forme d'illusion réciproque. Israël pense influencer la France, mais elle le fait pas assez. La France espère influencer Israël, mais elle n'y réussit pas vraiment, parce qu'elle n'a pas toujours les bons leviers, et surtout elle n'est pas vraiment écoutée en Israël. Et donc voilà, on est sur ce quiproquo permanent, cette incompréhension, et lié peut-être à cette lune de miel initiale. Dans le fond, vous savez, c'est que ces vieux couples qui sont beaucoup aimés, qui maintenant se détestent affectueusement.
La formule est jolie. Merci Vincent Nouzil. Votre enquête, que je recommande évidemment, s'intitule Histoire secrète, au pluriel, on l'a bien compris, France-Israël 1948-2018, un livre publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et j'ajoute que vous avez un site également.
Oui, vincentnouzil.fr, tout simplement.
Et vous nourrissez de documents complémentaires, d'ailleurs.
Documents complémentaires ou d'éléments d'actualité liés à toute cette actualité géopolitique du Proche-Orient.
À lire, donc. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée, évidemment, par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Rendez-vous avec le deuxième des trois numéros consacrés à mai 68. Demain, nous évoquerons cette révolte avec l'historienne Emmanuelle Loyer. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.